On va poser la question à présent, mais que se passe-t-il dans les universités américaines? Et pour essayer de répondre à cette question, nous sommes en ligne avec Brett Klein, qui est journaliste américain à Paris. Bonsoir Brett.
Bonsoir Bernard.
Et avec Annabelle Azadeh, qui est journaliste française à Los Angeles. Bonsoir Annabelle.
Bonsoir Bernard.
Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Je vais vous faire écouter la manière dont le correspondant de CBS vit en direct les affrontements qui ont eu lieu hier à UCLA. UCLA, c'est l'une des universités les plus prestigieuses du monde, pas des États-Unis, du monde. C'est le top 4 des États-Unis. Harvard, UCLA, Berkeley.
Non.
Non, c'est pas ça?
Pas tout à fait.
Ah
non,
bon,
mais
bon, bref.
C'est pas grave.
Pas très loin.
Top 10.
Top 10. Brett, moi qui me serais fait recaler à UCLA, laissez-moi.
Je suis désolé.
UCLA, c'est pas l'endroit où normalement on se tape dessus. D'accord ? Là, on est d'accord tous les trois. On écoute la manière ahurissante dont le correspondant voit sous ses yeux les affrontements UCLA entre pro-israéliens et pro-palestiniens. UCLA, monsieur Arnaud Gobert, s'il vous plaît.
Halfway through the quad. Look at this. Somebody is being beaten. Somebody is being beaten with a
c'est
stick and punches in the middle of the lawn.
Voilà, au milieu. Voilà. Et là, alors bon, vous n'avez pas les images, mais c'est baston général.
Right.
Donc là, vous voyez, il y a une atmosphère d'émeute.
Look
à tel point que. Look at that, il dit, regardez, il y a quelqu'un qui vient d'être tiré et on le frappe au sol. Bref, Annabelle, vous qui êtes sur place à Los Angeles, non, je répète, ce n'est pas des images qu'on attend de UCLA. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une idée? Vous arrivez à avoir un peu de recul sur cette situation folle qui, en fait, est en train de dégénérer sur les campus américains?
Oui, alors je vais préciser qu'il n'y a pas que UCLA à Los Angeles, il y a aussi une autre université qui s'appelle USC, où il y a aussi des affrontements en ce moment. Alors, déjà, il faut savoir que la Californie, c'est démocrate, donc on va dire que c'est plutôt à gauche. Donc, en fait, leur politique, c'est de ne pas impliquer la police jusqu'au dernier recours. Donc, les deux camps, on va dire, si on va dire qu'il y a deux camps, mais voilà, pour simplifier, entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens. À UCLA, ce qui s'est passé, en fait, c'est que vous avez une très grande cour, une sorte de parc, un peu comme à la Sorbonne, évidemment taille américaine, donc 10 fois plus grand. Et en fait, les étudiants qui se proclament pro-palestiniens ont installé des tentes et ont une politique où ils ne parlent pas. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas à la presse. J'ai des consoeurs et des confrères qui se sont rendus sur les lieux. Ils ne répondent pas à la presse, ils ne veulent pas expliquer leurs revendications. J'ai même des confrères qui m'ont dit, on dirait qu'ils n'ont aucune connaissance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont là. Ils sont tous masqués, ils n'ont pas envie d'être identifiés. Et pour résumer un peu ce qui se passe, c'est ça qui est un petit peu étrange, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de connaissance de ce qui se passe au Moyen-Orient. On n'a pas l'impression qu'ils savent non plus ce que c'est que le Hamas ou vraiment ce qui se passe au Proche-Orient depuis les attaques du 7 octobre. On a l'impression surtout qu'ils font un peu ça pour foutre le bordel. Donc c'est un peu bizarre parce que il n'y a pas vraiment de représentants comme on pourrait dire en France où il y a l'UNED.
Ou comme on pourrait dire à Colombia, parce qu'Annabelle, ça ne se passe pas comme ça à Colombia. Là, il y a une direction politique, il y a une volonté politique.
C'est bien, voilà.
Oui.
Alors Brett, Annabelle, vous qui êtes sur place à Los Angeles, on vous retrouve dans une minute, on va voir aussi le point de vue de Brett. Brett Klein.
Bernard, Annabelle, bonsoir. D'abord, je voulais dire, Bernard, ce que j'ai entendu là tout de suite à Vancouver, la femme qui criait, voilà, la défense, libération palestinienne, glorieuse, c'est dégoûtant. Dégoûtant.
Ouais.
Franchement. Et ce que je voulais dire d'abord, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, Annabelle. Sur, à chaque campus, la situation semble être différente. À New York, par exemple, il y a quelques jours, le gars qui disait, voilà, les sionistes, ils devraient mourir et tout ça, il a été mis dehors du campus tout de suite. D'ailleurs, il s'est excusé après. Et depuis, on n'entend pas de choses comme ça. La police a vidé le hall Hamilton Hall à Columbia University qui était occupé par les manifestants. Moi, ce que je vois, ce que il faudrait un jour enquêter sur qui dit quoi sur les campus, parce que j'ai l'impression aussi que les gens qui manifestent, d'ailleurs à New York, ils voudraient cesser tout investissement dans Israël par la fac, un peu comme les manifestants anti-apartheid dans les années 80 et 90. Mais moi, je demande, c'est un processus qui prend tous les débats et négociations et tout ça. En quoi ça va aider les Palestiniens à Gaza? En quoi ça va amener de la nourriture aux Palestiniens à Gaza? C'est un peu n'importe quoi. Et j'ai l'impression aussi qu'ils sont un peu hors jeu, ces manifestants. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. En fait.
Alors, vous êtes d'accord tous les deux sur l'idée que, vous êtes d'accord tous les deux sur l'idée qu'ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Et c'est vrai que les Américains ne sont pas connus pour être les plus forts en politique internationale. Je dis ça sans mépris aucun. C'est une société qui se suffit à elle-même et les gens. Alors, je vous propose d'écouter la porte-parole du mouvement étudiant de Columbia. La nourriture, elle demande une aide humanitaire. Elle est à Columbia, elle veut une aide humanitaire. Donc, parce qu'elle veut à boire, à manger, elle dit on me doit une aide humanitaire. Vous voyez un peu le niveau du délire. Alors d'abord, il faut dire que l'administration est obligée de le nourrir. Donc le journaliste l'interroge. Alors donc en tant que communauté, il y a une obligation de le nourrir. Déjà au moins de ne pas empêcher l'eau et la nourriture d'arriver sur notre campement. Devrait au moins les laisser passer et laisser passer cette aide humanitaire. Voilà, aide humanitaire, allez. Annabelle, on a atteint le niveau là. Hein, je pense que je sais pas. Einstein et Raymond Aron, ils doivent rougir là parce qu'ils ont de la concurrence avec la nouvelle génération. Elle veut une aide humanitaire
oui,
à Colombie.
Il y a un mime qui circule où il y a quelqu'un qui double sa voix et elle dit oui, je veux des pizzas sans pépéroni, mais des pizzas de pépéroni vegan. C'est très, très drôle. Elle est un peu... Enfin, cette nana, oui, c'est n'importe quoi. En fait, ce qui est un petit peu triste pour cette génération, parce que comme vous le savez, Bernard, je ne suis plus très jeune, j'ai 35 ans.
J'aimerais bien être aussi vieux que vous.
Oh.
Ah, j'adorerais.
Oh, Bernard.
Ah, bon. J'adorerais être vieux comme ça. Bon. Alors oui, Annabelle, donc vous êtes plus très jeune, vous avez 30 ans.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je les vois, je me dis, bon, ils ont la vingtaine, les pauvres, ils ont quand même vécu le Covid pendant leur adolescence, ils se sont emmerdés chez eux comme pas possible, ils ont bouffé du TikTok. D'ailleurs, c'est pour ça que en ce moment, il y a un projet de loi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Bernard,
pour interdire
TikTok aux États-Unis, parce qu'on a découvert que effectivement c'était sous influence chinoise, qu'il y avait un agenda politique très très forcé derrière l'algorithme, et qu'en plus de ça, ces adolescents ne lisent pas, donc ils ont vraiment aucun recul critique sur l'histoire, ils n'ont aucune connaissance, donc ils ont eu le cerveau bourré de conneries pendant tout le Covid. En plus de ça, ils étaient chez leurs parents à pas pouvoir sortir, et maintenant ils sont à la fac, et en fait, bon, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais en tout cas c'est mon opinion, c'est qu'ils ont une sorte de haine en fait, ils ont de la violence en eux qui vient de l'ignorance. Et ils savent pas quoi faire, donc au lieu de créer quelque chose, de faire quelque chose de constructif, d'envoyer de l'aide humanitaire, ça pourrait être quelque chose qui est apolitique et qui est utile pour tout le monde. Eh bien, ils campent dans leur université. Là, UCLA a officiellement dit aujourd'hui qu'il y avait plus de cours jusqu'à le nouvel ordre. Il faut savoir quand même que c'est 100 000 dollars par an. Donc, c'est-à-dire que pour, je crois que c'est 15% des étudiants qui manifestent. Donc, pour 15% des étudiants qui manifestent, tout le monde est paralysé.
85%.
C'est 85%?
Non, s'il y a 15%, s'il y a 15% de manifestants, voilà. Ça fait 85% avec des études qui coûtent très cher d'ailleurs, ouais. D'étudiants qui ne peuvent pas aller en cours.
Qui ne pourront pas rattraper avec évidemment ben, cette cérémonie. Il y a une autre université, donc je parlais de l'autre université USC, où la cérémonie de, comme on dit, graduation de diplôme a été annulée, ce qui est un rite de passage assez, assez important dans la vie d'un Américain. Donc c'est vraiment triste, c'est complètement contre-productif. Et puis au-delà de ça, je trouve ça inquiétant parce que j'ai l'impression que cette génération de Gen Z, ils sont violents et ils sont vraiment nourris à coups de vidéos courtes sur Internet, chargées d'émotions, sans vocabulaire, sans mots, sans connaissances, sans histoire. Et le problème, c'est que quand on ne connaît pas l'histoire, on la répète.
Alors, Brett Klein.
Bernard.
Non,
oui.
Un instant, non, je vous cède la parole. Je vous promets, je vous cède la parole. Mais tous les deux, vous le prenez, j'ai envie de dire, un peu de haut. Et d'ailleurs, à la limite, c'est réconfortant. On préfère être face à des gens stupides que face à des gens déterminés avec un agenda comme à Vancouver.
Oui et non.
Mais
oui
attendez.
Et non,
mais, alors, justement, Brett, justement, je vous ai préparé plein de sons. Je vais vous faire écouter cette fois-ci une femme qui manifeste avec un drapeau palestinien. Tenez-vous bien. Elle dit les femmes juives sont trop laides pour être violées. Donc, il n'y a pas eu viol le 7 octobre. Elle dit ça. Et elle dit, peut-être avec un préservatif, mais limite. Mais sinon, on ne les viole pas, les femmes juives sont trop laides. Là, on n'est plus dans la rigolade. Hein. On écoute. Voilà, et la personne qui la prend en photo dit « Oh non !»
Oh là là. Bernard, écoutez, il y a deux, trois choses là. D'abord, vous êtes avec moi là? Oui.
Ah oui.
Ok, d'abord, à UCLA, c'était la première fois que des manifestants pro-Israël se sont mis contre les pro-palestiniens. C'est le seul exemple de ça, je pense, aux États-Unis. Je vais pas dire tant mieux, tant pis, mais en fait, ça s'est passé comme ça. Deuxième chose, à la télé, on voit tellement de choses sur les campus, maintenant, aux États-Unis, et ici en France aussi d'ailleurs, qu'on voit moins de choses de ce qui se passe en Israël et à Gaza. Troisième chose, et là c'est peut-être le plus important, ils sont tellement stupides parmi ces manifestants que la grande question aux États-Unis, c'est les élections de novembre. Parce que si tous ces jeunes ne votent pas pour Biden ou qui ne votent pas, dans certains États, vu le système de the Electoral College là-bas, ça peut tourner plusieurs États contre Biden. Et ça veut dire que c'est une victoire pour Donald Trump. Et ça, ça serait le désastre, ça serait troisième guerre mondiale. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Et ça, personne n'en parle sur les campus. Qu'est-ce qu'ils vont faire au mois de novembre? Et je pense que c'est très, très important. Et ça manque perspective politique totale. Franchement, ils ne savent pas ce qu'ils font là. Et entre-temps, les Israéliens bombardent à Rafah, il faut le dire. Avant cette campagne qui doit démarrer ou qui ne va pas démarrer, ils bombardent déjà. Et personne sur ces campus n'est au courant de rien. On a l'impression. Voilà, Bernard.
Alors voilà, donc s'il y a un taux d'abstention suffisamment important, c'est le candidat républicain qui passe devant et donc il joue contre leur camp. Annabelle nous dit Brett Klein, c'est-à-dire c'est le vote révolutionnaire, quoi. C'est faire passer l'adversaire.
S'il ne vote pas, ça peut tourner certains États contre Biden et donc c'est une victoire pour Trump. Et ça, c'est l'horreur totale. Voilà.
Je vous laisse le commentaire. Le commentaire vous appartient, mais vous êtes notre invité. L'horreur totale, le commentaire, c'est le vôtre. Annabelle.
Oui, alors, Brett, oui, je suis d'accord. Alors, je vais juste préciser quelque chose. Donc, pour la femme qui dit, pour les viols, là, qui dit...
Ouais. Les femmes juives sont... Et comment elle sait qu'il n'y a pas eu viol le 7 octobre? Elle dit parce qu'elles sont trop laides, on ne peut pas les violer à part avec peut-être un préservatif et il n'y avait pas de préservatif à Supernova.
Je précise, précise qu'elle est blanche et qu'elle doit avoir 70 ans, donc elle fait pas du tout partie de la démographie dont on était en train de discuter. On appelle ça une Karen aux États-Unis, c'est-à-dire une femme un peu peut-être vieille fille, un peu célibataire, vous voyez, aigrie par la vie. Bon, malheureusement, c'était une étudiante juive qui était avec son téléphone dans la rue pendant une manif. Elle a vu une folle dingue dire ça. La parole antisémite se libère. En fait, je pense que c'est un peu ça la conclusion. Malheureusement, comme vous le savez, dans le monde, l'antisémitisme a toujours été rampant ou au moins dormant. Aux États-Unis, c'est le cas. Moi, ça fait déjà presque 6 mois que ma mezouza, elle est à l'intérieur. Je la mets plus sur ma porte pour des raisons de sécurité. Donc, il faut aussi savoir
donc c'est pas si souriant. C'est pas si, je sais pas, c'est pas le mot souriant que je vais utiliser, mais on peut pas les prendre trop à la légère, contrairement à ce qu'on a un peu fait au début de notre débat, c'est, malgré tout. Il y a quand même une jeune fille, en fait, une étudiante qui est dans le coma, vous mettez plus votre mezouza, on parle d'un pays qui était le paradis pour les juifs, quoi. Les États-Unis, la Californie.
C'est moins, personnellement, je pense que c'est moins pire que la France. Ça veut pas dire que c'est bien, mais ça veut dire que c'est moins pire que la France. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a quand même moins d'habitants au mètre carré parce qu'on est quand même sur des plus grands espaces, donc on n'est pas entassés les uns sur les autres, on peut faire ce qu'on veut, voilà. C'est vrai. Après, c'est vrai que l'antisémitisme, oui, il y a eu des croix gammées qui ont été repérées, peintes sur les murs de magasins à New York hier matin, parce que ça, c'est vrai. Alors, pour ce qui est de la Troisième Guerre mondiale, j'aurais un avis légèrement différent avec Brett. En fait,
moi aussi.
Pense personnellement que ça va surtout tourner en guerre civile aux États-Unis. Il y a un film qui vient juste de sortir aux États-Unis, Alex Garland, qui s'appelle Guerre civile, que je suis allée voir au cinéma la semaine dernière. Et c'est un film, justement, sur des affrontements dans des campus universitaires. Donc c'est dingue, parce que le truc est sorti 2 semaines avant que ça se passe. Et il y a une nana qui arrive avec un énorme drapeau américain qui a l'air d'être pro-Trump, même si c'est pas vraiment dit dans le film, et qui se fait exploser avec une bombe. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a une sorte de guerre civile dans le pays. Dans le film, on suit en fait des journalistes de New York à Washington pour aller interviewer le président, et c'est des journalistes de Reuters, donc forcément je m'identifie un peu avec les personnages, mais ça veut dire que voilà, dans la culture ambiante, c'est très tendu. Il y a effectivement deux parties qui sont opposées. Donald Trump, il a pas vraiment de présence dans la presse en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il fait un petit peu comme Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'il profite du chaos ambiant pour de manière pernicieuse s'installer. C'est-à-dire que je pense qu'il va venir sûrement au troisième trimestre de l'année dans la presse. Et là, en fait, il attend parce que la dernière chose que je vais préciser, c'est que la police est venue ce matin à Los Angeles et elle est venue aussi dans la nuit à New York. Et comme ce sont deux lieux plutôt à gauche, ça montre, en fait, les gens disent, voilà, si ça avait été Trump et que les flics seraient arrivés, vous nous auriez dit que c'est un gouvernement de fachos, en fait, Biden, il est encore plus facho que Trump, donc au final, Trump, c'est mieux que Biden. Donc ça, c'est ce qui est repris dans la presse.
On avait entendu ça aussi beaucoup après en France, hein, Annabelle, des gens votaient de nouveau vote révolutionnaire contre Macron. Parce que le pire de tous, c'est Macron. On a connu ça en France. Oui, alors on disait à des gens, par exemple, vous parlez de vos confrères, je connais des gens à Libé, Libération, ouais, qui disaient, non mais c'est mieux Rassemblement National que Macron. C'est mieux. Pourquoi ? Parce que c'est mieux. Parce que Macron, c'est la finance internationale, etc. Alors, Annabelle à Los Angeles et Brett à Paris, je vais mettre un peu de baume au cœur en vous disant au revoir à nos auditeurs, avec un monsieur que nous connaissons tous, puisqu'un jour il nous a demandé « You talking to me ?» et donc on ne savait pas trop quoi lui répondre.
Robert De Niro,
qui interpelle directement les militants pro-palestiniens qui sont sur Manhattan apparemment. Il dit « Ces gens sont dangereux, ces gens c'est le Hamas ». Il dit « Vous n'êtes pas sérieux ? Are you serious ? This is not a movie here ». On va entendre ça tout de suite. Je le dis en anglais parce que c'est un tel plaisir d'entendre Robert De Niro dans la langue. On a beaucoup donné d'informations contradictoires sur Internet. D'après le journal Haaretz, c'est précisément d'après Rachel Fink qui est la correspondante de Haaretz, en fait, De Niro sortait d'un tournage de sa nouvelle émission Zero Day dans les quartiers de Manhattan. On a dit que c'était partout. On a dit que c'était à Soho. On a dit que c'était à Los Angeles. Moi, je vous donne une source. D'après Haaretz, il sort de son tournage, il voit les pro-palestiniens, il ne peut pas s'empêcher de leur dire « Vous n'êtes pas dans un film, là. » Ils ont dit eux-mêmes, les gens du Hamas, qu'ils étaient prêts à recommencer « again and again ». Annabelle, bonsoir à vous. Pas bonsoir, bonjour. Quelle heure il est ? Il est tôt, là.
9h du matin.
9h du matin, ouais. Donc voilà, je vous souhaite un bon petit déj. Et Brett, vous, je sais, vous habitez. Vous êtes malheureusement pour vous dans des moments moins chaleureux que la plage de Venice Beach. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Et on écoute le grand Robert De Niro défendre Israël. Heureusement, on entend mal, donc c'est mieux avec la vidéo. Mais il dit ça. Are you serious? This is not a movie. Voilà, bah malheureusement, donc on n'entend pas De Niro. On peut le voir par contre, essayer de taper De Niro sur les réseaux sociaux, et c'est un régal.